Nous nous trouvons en reportage au phare de l'Espiguette, un phare qui vient juste d'être rénové. Ça a été toute une aventure à rénover.
Oui, ça a été très très long. Il faut savoir que on est sur un bâtiment qui est classé, qui est classé monument historique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, et heureusement. Et donc ça a été long, il y a forcément des typicités différentes et puis des surprises. Par exemple, le sol sur lequel nous nous trouvons, on ne pensait pas le découvrir d'aussi bonne qualité, donc voilà, on a pris quelques retards pour rénover ce sol, pour le maintenir en état. Voilà,
avant qu'il soit rénové, Florinesco, est-ce qu'il était visitable?
En fait, certains visiteurs ont eu l'occasion de loger dans ces bâtiments. Ça faisait partie de la DDT. Ils pouvaient louer ces bâtiments pour y dormir, pour venir en vacances. Ils ne pouvaient pas monter en haut du phare. Mais voilà, donc il y a quelques visiteurs qui nous disent « Mais moi, je suis venue en vacances ici. » Voilà, des privilégiés.
C'était pas mal parce que la plage est juste à côté. Et donc, on est en train de visiter. Vous avez une exposition permanente, c'est ça? Et donc, on est dans la dernière pièce de l'exposition permanente, si je comprends bien, non?
Alors, une avant-dernière pièce, puisque en face de la cour, il y a une autre petite pièce sur la signalisation maritime.
Bon, donc ici, on nous parle des règlements et services du phare.
Exactement. Alors moi, j'adore cette pièce parce que ça nous explique ce que faisait le gardien de phare. Le gardien de phare, non seulement il devait maintenir la lumière pour éviter que les marins s'en sablent et pour qu'ils puissent se repérer, donc il avait son travail de nuit, il avait une garde de 6 heures la nuit, mais aussi il devait monter la journée. Il nettoyait tous les jours la lentille.
Ah oui.
Tous les jours, il nettoyait aussi les vitres de la lanterne. Donc la lanterne, c'est vraiment tout ce qu'on voit en haut du phare, et la lentille, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est à côté de l'ampoule. Et donc il nettoyait tous les jours ses fenêtres, parce que les lampes à huile et les lampes à pétrole laissaient un dépôt sur ses fenêtres. Tous les jours, il fermait les rideaux aussi pour pas que le soleil impacte le matériel. Il faut savoir, aujourd'hui, on a des fenêtres anti-UV, mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, il fermait tous les jours, il nettoyait le matériel, et puis, il réparait s'il y avait des pannes. Donc, c'était vraiment des hommes à tout faire, ces gardiens. À la fois des techniciens, à la fois des personnes d'entretien. Et puis, il fallait être physiquement assez sportif. Donc, à l'origine, ça a été très souvent des anciens marins à la retraite qui pouvaient venir faire fonctionner les phares. Ensuite, on avait décidé que ce soit des militaires, même des blessés de guerre qui pouvaient quand même monter en haut du phare. Puis ensuite, ça a été des fonctionnaires. Mais c'était un métier qui se transmettait aussi de passion, de père en fils. Et sur cette pièce-là, on a aussi, j'y tiens un petit peu, c'est mon côté féministe, mais les premiers et les dernières gardiennes, puisque les dernières gardiennes étaient des femmes. Donc la dernière qui est restée jusque dans les années 2000, qui n'avait plus fonction de gardienne parce que le phare était automatisé dans les années 80, mais qui faisait quand même, qui devait être là pour signaler s'il y avait des pannes, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça puisque tout est automatisé, tout est géré à distance. Le moindre défaut, ils arrivent à le voir sur leurs ordinateurs. D'ailleurs, depuis qu'on a ouvert, on ne les voit pas puisqu'il n'y a pratiquement aucune panne, quoi.
Donc là, on va traverser la cour.
Oui.
Nous apercevons un puits. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un puits?
C'est vrai qu'il a une forme de puits, mais on ne peut pas l'appeler puits. On n'allait pas jusqu'à la nappe phréatique, puisqu'il y avait quand même des remontées de sel.
Oui.
On est sur une citerne. Donc il faut s'imaginer que sous le phare, tout est bétonné. Et on a évalué à peu près cette citerne à 70 mètres cubes d'eau qui pouvait être stockée. Donc c'était le seul point d'eau douce du phare.
70 mètres cubes, ça fait beaucoup, quoi.
Oui, c'est énorme. Pour le site, c'était très bien. Mais en cas de forte sécheresse, il fallait avoir de l'eau douce sur le site. On s'aperçoit que cette cour, elle est pavée, mais elle n'est pas droite.
Oui.
Donc, chaque descente de toit pouvait remplir cette citerne et aussi l'eau de pluie pouvait ruisseler sur ces pavés de cour pour remplir cette citerne. Tout est complètement, extrêmement imaginé. Aujourd'hui, dans nos constructions récentes, on essaye de revenir à cette économie d'eau, etc. Mais à l'époque, voilà, ils étaient déjà très, très ingénieux.
Et on aperçoit donc deux portes et au milieu une grande baie vitrée. D'ailleurs, il y a des gens qui sont en réunion. À quoi servait cette salle avant?
Alors, c'était des locaux ouverts. Et c'était probablement, en fait, les ingénieurs qui pouvaient avoir une cuisine ouverte, une espèce de cuisine d'été. Donc, c'était des communs qu'ils pouvaient partager tous ensemble. Et de part et d'autre, donc ces deux portes que vous avez, c'était des logements d'ingénieurs. Donc, les ingénieurs pouvaient venir travailler quelques jours et pouvoir dormir sur le site.
On va aller visiter la première, celle de droite. Donc nous entrons dans cette salle, elle est plus dépouillée, j'aperçois une maquette qui est faite comme avec des vitraux. En fait.
Oui, exactement, c'est une maquette de Daniel Linhart. Il nous l'a donnée, il l'a donnée à la mairie du Gros-du-Roi. Il a créé les deux phares, le phare de l'Espiguette et l'ancien phare. Et donc, voilà, et c'est des dons de visiteurs qui sont très attachés à ce lieu.
Et donc, on aperçoit une magnifique cheminée. J'en ai pas vu hein, dans les logements des...
Alors, il y en avait dans les différentes pièces, mais c'est vrai qu'on a maintenu les deux cheminées dans les anciens logements d'ingénieurs. On a quelques panneaux explicatifs sur la signature des langages de phare, mais aussi sur la signalisation maritime plus générale, hein, les marques de bâbord, de tribord, les feux, etc. Ce sera aussi une pièce qui sera dédiée aux expositions temporaires. On envisage aussi sur ce site d'avoir une rythmique d'exposants. Ça peut être des expositions qui seront graphiques, ça peut être des expositions qui vont apporter un autre fond pédagogique, peut-être des expositions naturalistes. Voilà, donc on est sur le démarrage de ce site, mais cette pièce-là va pouvoir participer à une dynamique d'exposition, tout comme la cour d'ailleurs. Cette cour, elle est encore très très nue et on envisage de l'animer, de pouvoir aussi s'y poser. Pour les personnes qui ont envie d'écrire, envie de dessiner, envie de peindre, je rêverais de voir des peintres venir toute la journée pour peindre le phare, pour faire des croquis, pour faire de l'aquarelle. Voilà, ça nous plairait énormément de voir les visiteurs s'approprier le site de cette manière-là.
Donc ça donne envie, hein, les visiteurs. Donc c'est un site où il fait bon vivre. D'ailleurs, on a l'impression d'être un peu en dehors du temps. On vous sent très détendu quand vous nous accueillez. J'imagine que Internet passe pas très bien, ni le téléphone. Donc ça aide aussi à peut-être entrer dans une autre dimension, prendre le temps de vivre, prendre le temps d'être en Camargue. Et j'imagine que la cour, peut-être vous allez essayer d'y mettre un peu d'ombre.
Oui, alors il faut savoir que l'après-midi, donc le soleil est de l'autre côté du phare. Et donc c'est tout le phare qui nous fait de l'ombre. Et c'est un côté très très agréable. On mettra peut-être des transats pour inviter les gens à contempler et à prendre le temps. Je pense que le site invite à prendre le temps, ce platelage en bois, d'arriver au pied de la tour, de prendre le temps de lire ces panneaux pédagogiques. Prendre le temps.
Et ensuite, une fois qu'on a fini toute cette partie-là de la visite, il y a possibilité de visiter ensuite le phare lui-même, de monter en haut. Et ça, on ne le fait pas en libre visite.
Exactement. En fait, quand on a ouvert ce site, il y a plein de phares en France qui sont ouverts en visite libre. Nous, ce n'est pas ce qu'on nous a demandé de faire. On nous a demandé d'accompagner les visiteurs en haut du phare. Alors nous, on a dit, ok, on va accompagner les visiteurs. Par contre, on va leur parler. Et donc, on va leur proposer une visite guidée. Donc, c'est un petit peu ce qui nous détache des autres fonctionnements de phare. On ne monte en haut du phare qu'avec 10 personnes. Donc, c'est une petite visite guidée presque privative. Et donc, on va expliquer l'histoire, l'architecture. On va faire des pauses pour montrer cet escalier qui est quand même assez particulier, très graphique, hein, cet escalier hélicoïdal. On arrive dans les chambres de veille et puis sur la terrasse pour faire une très belle lecture de paysage. La visite guidée dure une demi-heure. Et dans le musée, vous restez le temps que vous souhaitez.
Et en général, vous avez fait combien de visites guidées par jour pendant l'été, la haute saison ?
On faisait, si je me souviens bien, 12 visites par jour. Alors, on était plusieurs. Mmh. Et en moyenne, les guides montaient entre 4 et 6 fois par jour.
Donc, vous êtes en pleine forme, les guides. Hein.
On a une équipe en béton, des jambes en béton. Mais c'est un côté très agréable. Pas besoin de faire de salle de sport après le travail.
Hein. Ah ben non, ça c'est sûr. Alors, on se donne rendez-vous demain, Florinesco. On va monter ensemble en haut du phare de l'Espiguette et on va faire cette visite guidée. Bon, on va le faire en rétréci parce que quand vous le faites avec des visiteurs, ça dure une demi-heure. Mais c'est pour inviter nos auditeurs à venir au phare de l'Espiguette qui est ouvert pendant toute la période hivernale du mercredi au dimanche. Et d'ailleurs, je pense que c'est facile à trouver les informations sur un site internet.
Exactement, on a notre site internet Phare Espiguette, on n'est pas très originaux là-dessus, mais en tout cas, voilà, sur Phare Espiguette, vous allez trouver toutes nos informations, nos horaires d'ouverture, les droits d'entrée, etc.
À demain.
À demain.